Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Comment peut-on être danois ? Et comment peut-on être luthérien ? Et comment peut-on être un grand homme dans un pays dont la surface n'est pas immense ? Un pays sans philosophe ? Et pourtant un pays où l'on sera le plus grand philosophe que ce pays ait jamais connu. Philosophe, mais aussi polémiste, dandy, intellectuel, dont l'influence sera immense dans le monde entier, le monde intellectuel, alors que l'on ne peut être compris dans une autre langue que la sienne. Au fait, que signifie Kierkegaard en danois ? Connaissance de l'homme, première diffusion sur France 3 Nationale le 22 mai 1963.
Monsieur Gusdorf, professeur à la faculté des lettres de Strasbourg, vous parle de Kierkegaard.
Kierkegaard a été longtemps inconnu. Il est aujourd'hui en passe de devenir célèbre, mais on peut se demander si maintenant qu'il est célèbre, il n'est pas tout aussi méconnu que quand il était absolument inconnu. Je m'explique. Je voudrais d'abord citer le mot d'une très vieille dame, une vieille dame qui s'appelait Madame Veuve Frédérique Schlegel, qui disait aux environs de 1900, alors qu'elle-même avait à peu près 80 ans, qui disait à un journaliste français « Les Français ne comprendront jamais Kierkegaard ». Le mot est curieux et frappant, et d'autant plus curieux, d'autant plus frappant que cette vieille dame, cette madame veuve Frédérique Schlegel, avait été dans sa jeunesse une certaine Régine Hølsen, c'est-à-dire la fiancée même de Søren Kierkegaard, et qui était devenue par la suite la légataire universelle de son œuvre. Donc, madame veuve Schlegel confie à un journaliste français « Les Français ne comprendront jamais Kierkegaard ». Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce mot d'une vieille dame qui n'avait sans doute jamais mis les pieds en France, ce mot paraît cruellement vrai. Et ceci pour diverses raisons. La première peut se résumer en quelques mots. Comment peut-on être danois ? Kierkegaard a eu le tort de naître citoyen d'un tout petit pays dans la grande banlieue intellectuelle de l'Europe, ce qu'il condamne à être le grand homme d'un pays périphérique. Or, ce pays périphérique ne dispose d'aucune des grandes langues de culture de l'Europe. Quand on est suisse, on s'en tire toujours, quand on est suisse et grand homme, grand écrivain ou grand penseur, parce que on est suisse, mais on est écrivain ou penseur français comme Rousseau, on est théologien allemand comme Karl Barth. Quand on est danois, on n'a pas cette ressource et l'on est nécessairement une sorte d'écrivain maudit. En effet, on s'exprime dans une langue qui est une langue incompréhensible à la plupart des hommes cultivés. Kierkegaard est danois, il s'exprime en danois, et ceci signifie que si l'on veut comprendre Kierkegaard, il faut pousser la passion kierkegaardienne jusqu'à apprendre le danois, comme fit en Espagne Miguel de Unamuno, et comme fit en France Pierre-Henri Tissot, l'unique, le seul traducteur fidèle des œuvres de Kierkegaard. Seulement, c'est là un sacrifice extraordinaire et on ne peut pas demander à tous les amis de Kierkegaard d'apprendre le danois. Or, si l'on ne possède pas la langue, ce n'est pas seulement les mots qui échappent. Avec les mots, c'est toute l'harmonie interne, c'est toute la musique, c'est tout le paysage spirituel d'une culture. Kierkegaard ne peut pas être compris dans une autre langue que son danois familier. Et si l'on ne parle pas le danois, alors ceux qui entendent Kierkegaard, ceux qui essaient de le comprendre, l'entendent sans l'entendre et le comprennent sans le comprendre. Il y a en effet dans l'œuvre kierkegaardienne des évidences danoises qui nous échappent absolument, qui sont radicalement fermées à celui qui ne possède pas le langage. Et ceci, nous y reviendrons, c'est déjà un premier point sur lequel il faut insister. Kierkegaard est un écrivain de génie, Kierkegaard est un poète, et il doit être compris comme un poète, c'est-à-dire dans sa langue familière et maternelle. Kierkegaard n'a pas de chance, comment peut-on être danois ? Et puis, il n'a pas de chance encore, pour une seconde raison, c'est que, comme il est danois, il est luthérien. Comment peut-on être luthérien ? Et ceci Ceci signifie aussi que le lecteur français, qui ne s'est pas reconnu dans la réforme luthérienne, sauf d'honorables exceptions, le lecteur français va être complètement aveugle à certaines résonances fondamentales de l'œuvre luthérienne. Ici, on comprend tout de suite que la culture française est une culture profondément catholique. Ceux qui sont catholiques sont évidemment catholiques dans leur culture en France, et ceux qui ne le sont pas, ceux-là, à leur insu, même s'ils sont anticléricaux, même s'ils sont farouchement opposés au catholicisme, ceux-là sont marqués par le catholicisme, et on relève chez eux une sorte de catholicisme en creux ou par défaut, comme dans le cas d'un Voltaire ou d'un Ernest Renan. Or, Kierkegaard échappe au catholicisme. Il n'appartient pas au domaine, à la mouvance catholique, et par là, le français qui n'a pas cette formation d'esprit, le français qui n'a jamais compris cette attitude spirituelle, le français qui ne s'est pas familiarisé avec les évidences de la réforme luthérienne, ce français-là ne comprendra pas Kierkegaard, et même s'il a les textes sous les yeux, il sera en quelque sorte aveugle et sourd. De telle sorte qu'il arrivera ces malentendus monumentaux, comme il en est d'ailleurs arrivé trop souvent en France même, ces malentendus monumentaux qui consistent à dire que Kierkegaard étant l'adversaire du luthéranisme, c'est-à-dire l'ennemi des ennemis du catholicisme, Kierkegaard est un catholique qui s'ignore. Cette entreprise a été souvent tentée et l'on s'est imaginé avec beaucoup de naïveté que deux négations valant une affirmation, Kierkegaard, négateur du luthéranisme, serait une sorte de catholique, ce qu'il ne sait pas, qui ignore son propre catholicisme. Eh bien, ceci est une erreur, et je veux le dire tout de suite. Il est absolument certain que Kierkegaard est fondamentalement un chrétien évangélique, un chrétien réformé et un chrétien luthérien. Évidemment, si on n'a pas une sensibilité orientée de ce côté, alors, philosophe ou penseur catholique, on se figurera trouver chez Kierkegaard autre chose que ce que Kierkegaard lui-même a été. Et mon idée ici, mon affirmation, c'est que Kierkegaard n'est pas seulement un réformé, c'est un réformateur, c'est un des témoins de la réforme éternelle. En dehors de cette affirmation-là, Kierkegaard ne peut pas être compris tel qu'il est. Ainsi, les Français ne comprendront jamais Kierkegaard. Nous avons dit pourquoi, et Madame veuve Frédéric Schlegel avait raison dans son affirmation. Seulement, si les Français ne peuvent pas comprendre Kierkegaard parce que Kierkegaard est danois et luthérien, je dirais que le drame de Kierkegaard, c'est que les Danois luthériens eux-mêmes, précisément peut-être parce qu'ils sont danois et luthériens, ne comprennent guère Kierkegaard. On trouve dans le journal de Kierkegaard cette affirmation qui fait rêver « Je ne serai jamais compris ». Nul n'est prophète en son pays. Et je me souviens, lorsque je visitais le Danemark, je me souviens d'avoir été frappé de l'ignorance où le Danois moyen se trouvait de Kierkegaard. Kierkegaard n'a pas gagné la bataille dans son propre pays. Il est considéré là-bas comme une espèce d'écrivain dont certaines pages figurent dans les anthologies. Mais bien sûr, l'Église officielle ne lui a jamais pardonné ses attaques, de telle sorte qu'il est maintenu dans une espèce de prudente expectative. Il n'est pas sorti du purgatoire. J'ai été très frappé, me promenant un jour à Copenhague, de découvrir qu'il y avait là une avenue Kierkegaard. C'était un boulevard magnifique et je me suis permis de dire à un Danois cultivé qui m'accompagnait que c'était tout de même flatteur pour Kierkegaard d'avoir donné son nom à une avenue aussi remarquable et aussi bien placée dans la ville. Alors, le Danois en question eut un certain sourire et il me dit « Ne vous y trompez pas, cette avenue n'est pas l'avenue Kierkegaard, c'est l'avenue du cimetière. » Car en danois, Kierkegaard, ça veut dire aussi « cimetière » et pour le Danois moyen, Kierkegaard, ça veut dire « cimetière » avant de signifier « Kierkegaard ». Ainsi, Kierkegaard n'a pas eu de chance et je persiste à penser que cet homme est un des héros méconnus de la littérature universelle. Mais si Kierkegaard n'a pas eu de chance et s'il est généralement méconnu, ceci bien sûr ne doit pas empêcher notre tentative de le comprendre et de pénétrer l'énigme de sa vie. Eh bien, le drame de Kierkegaard, je crois que c'est un drame biblique. Kierkegaard est un personnage biblique qui a vécu une aventure biblique. Une aventure où les personnages sont trois et peut-être quatre. Kierkegaard a affronté sa vie en affrontant d'abord son père et ensuite Régine Olsen. Son père, c'est le patriarche biblique. Et en même temps qu'un patriarche biblique, en même temps que Job ou Abraham, c'est un père qui a péché. Le père est un pécheur, le patriarche a commis dans sa vie une série de fautes et le fils doit expier. De telle sorte que Søren Kierkegaard est l'Isaac de cet Abraham que fut son père. Et toute l'histoire spirituelle de Kierkegaard, c'est le drame de ce rapport avec son père dont il est à la fois le fils et la victime. Et puis, nouveau personnage, second personnage du drame, Régine Olsen. Régine, la fiancée, qui représente la possibilité du mariage et la possibilité du bonheur. De telle sorte que dans cet affrontement déchirant, Kierkegaard, en sacrifiant sa fiancée, découvre la nécessité de sacrifier son bonheur. Parce que le drame lui-même, qui unit Kierkegaard à son père et à Régine, ce drame a son centre de gravitation devant Dieu. Le père de Kierkegaard et Régine elle-même ne sont que des intercesseurs dans cette aventure, dans cette grande légende en laquelle se noue et se dénoue l'existence terrestre de Kierkegaard. Et cette aventure, il va la vivre en même temps sur différents plans. Car Kierkegaard est un homme qui a eu une existence multiple, une existence qu'il a lui-même qualifiée par une série de pseudonymes. Kierkegaard a pris, dans son œuvre publiée, une série de noms d'emprunt. Une partie seulement de cette œuvre a été publiée sous son propre nom. Et ceci signifie, à mon avis, que l'être même de Kierkegaard est multiple comme son œuvre. Il y a en lui non pas un seul personnage, non pas un seul penseur et un seul écrivain, mais un ensemble de possibilités dont il a essayé, au prix de sa vie, de réalité l'unité. Quels sont ces pseudonymes? Quels sont ces essais et erreurs de la personnalité kierkegaardienne? Eh bien, tout d'abord, il y a en Kierkegaard un romancier, un poète lyrique et élégiaque d'une rare qualité. Et ici, il faudrait reprendre ce que je disais tout à l'heure sur la langue de Kierkegaard, sur cette espèce de richesse et de densité poétique par laquelle s'exprime dans les écrits littéraires une sensibilité romantique tout à fait exceptionnelle. Il est certain que Kierkegaard est un des plus grands stylistes de la langue danoise et un des meilleurs poètes élégiaques du XIXe siècle commençant. Son œuvre, c'est le paysage danois, c'est le miroir d'un pays et d'un peuple. Alors que nos philosophes sont généralement des hommes d'intellect complètement aveugles à tout ce qu'il y a de présence concrète dans la vie d'une nation ou d'un homme, Kierkegaard a reflété le paysage danois dans toutes ses saisons avec une finesse admirable. Il faudrait relever chez lui tous ces paysages qui sont le paysage de la ville, le paysage de la campagne, le paysage de la lande. On voit vibrer chez lui le feuillage printanier, on voit frissonner sous le vent les marécages du Jutland, ou bien on voit le pays tout entier s'absorber dans l'immobilité hivernale et dans la neige de Noël. Cet aspect de l'œuvre kierkegaardienne est un aspect admirable et absolument décisif. Toute cette œuvre de Kierkegaard est une chronique de Copenhague et une chronique aussi de toute la vie de ce petit pays aux confins de l'Europe, ce pays que le vent enveloppe de son frissonnement indéfini. Je me souviens d'avoir demandé à un Danois de mes amis quel pouvait être le secret de tristesse qui pesait sur le Danemark. Hamlet, le seigneur d'Elsener, est un homme triste et Andersen lui-même, l'auteur des contes, est un grand mélancolique. Cette mélancolie, elle absorbe aussi le personnage et l'œuvre kierkegaardienne. Et le Danois me répondait, pour justifier cette mélancolie, que le secret de ce mystère de tristesse, c'était le vent. Le Danemark est un entre-deux-mers, toujours soumis à la pression de ces courants d'air qui font que chacun se retire en soi-même et frissonne quelque peu sous le vent de la mer. Eh bien, le poète élégiaque Kierkegaard est le poète du vent et de la lande. Il est aussi le poète et le chroniqueur de l'existence boulevardière, théâtrale et ecclésiastique de Copenhague pendant la première moitié du XIXe siècle. Et je voudrais terminer sur ce point en disant que ce célibataire endurci, cet intellectuel à tout craint, est un de ceux qui ont évoqué l'existence féminine avec une finesse, avec une pénétration vraiment extraordinaire. Il y a chez lui une sorte de poème de la pensée et de la sensibilité de la femme et de la jeune fille dont on rencontre rarement ailleurs l'équivalent dans la littérature universelle. Ainsi, Kierkegaard est un poète et un romancier, mais c'est aussi en même temps un polémiste et un humoriste. C'est une sorte de dandy à la mode des jeunes France du début du XIXe siècle. C'est quelqu'un que l'ange du bizarre, comme disait Charles Baudelaire, a touché et marqué de son sceau. Ça, c'est un aspect de l'œuvre qui est aussi capital à mon avis et qui mérite d'être mis en relief. Il y a chez Kierkegaard une possibilité d'ironie et de méchanceté qui fait frémir. Si vous voulez, on pourrait dire qu'il est un rédacteur du Canard enchaîné, ou bien, en allant plus loin encore, on pourrait retrouver chez lui des traces de cette férocité si extraordinaire que notre Pascal a déployée dans ses provinciales. Donc, Kierkegaard est aussi quelqu'un qui pratique l'humour. C'est aussi un dandy, et il y a chez lui le goût de la vie de café, le goût des bons vins de France, le goût du théâtre, le goût des cigares. C'est un de ces personnages en qui se traduit l'inquiétude des enfants du siècle, et toute son œuvre se trouve marquée de ce point de vue-là d'un sens du grotesque et d'une sorte de pénétration dans l'ironie qui, si vous voulez, paraissent incompatibles avec le reste de son œuvre et qui pourtant joue un rôle capital dans son contact avec le monde. Kierkegaard est un polémiste, un humoriste, et c'est un dandy dont les pantalons à la coupe extraordinaire mettaient tout Copenhague en joie. Ceci fait partie de son personnage, c'est un personnage qu'il a joué et dans lequel il s'est reconnu. Kierkegaard, poète, Kierkegaard, polémiste et dandy, ce n'est pas tout. Kierkegaard est aussi un intellectuel et un penseur. Dans un pays sans philosophe, Kierkegaard est le plus grand philosophe que le Danemark ait jamais connu. Un trop grand philosophe pour le Danemark, pourrait-on dire. Mais ce philosophe est en même temps, par son ironie, par son humour et par sa combativité, ce philosophe est en même temps le philosophe de la non-philosophie. C'est le penseur qui, à force d'entendement, force les impasses de l'entendement. Et dès lors, il paraît incompréhensible aux philosophes qui le lisent et qui croient reconnaître en lui un philosophe. Il parle leur langage pour les ridiculiser et il passe son temps à les battre sur leur propre terrain. C'est là, évidemment, un aspect du génie de Kierkegaard, mais c'est celui sur lequel on a insisté à l'exclusion des autres. Je le signale en passant, mais il me semble que pour Kierkegaard, ce niveau de la pensée et de la philosophie, c'est un lieu de passage, ce n'est qu'un moment, et ce n'est pas du tout à ce niveau-là que Kierkegaard se reconnaît. Mais alors, à quel niveau se reconnaît-il vraiment? Eh bien, il se reconnaît d'abord au niveau de la littérature édifiante. Kierkegaard est un écrivain religieux. Kierkegaard est un homme qui a choisi le ministère de la parole. Kierkegaard a reçu, à son avis, mandat de l'Église pour annoncer la parole du Christ. Et il faut dire ici que les seuls ouvrages que Kierkegaard ait signés de son nom, c'est-à-dire les seuls ouvrages qu'il ait vraiment reconnu comme sien, ce sont les ouvrages religieux. Il a écrit en 8 ans et publié 88 discours édifiants ou traités spirituels. 88 en 8 ans, cela fait 11 par an et par conséquent à peu près un par mois. Ces discours édifiants, ces 88 discours édifiants, seuls signés de son nom, font une sorte de contrepoint à toutes les œuvres littéraires et philosophiques. En même temps que Kierkegaard publie ses grands livres qui sont célèbres, il publie aussi, et sous son nom, ses discours édifiants qu'aucun éditeur français jusqu'à présent n'a accepté de publier intégralement. Donc, Kierkegaard est un écrivain religieux et un écrivain religieux admirable. Là, son style atteint à une sérénité tout à fait extraordinaire et à une poésie biblique rarement égalée ailleurs. Ce Kierkegaard de la paix, de l'édification, ce Kierkegaard qui s'adresse aux âmes de son pays, aux âmes simples et qui leur parle simplement, ce Kierkegaard est certainement beaucoup plus près du Kierkegaard authentique que tous ceux que nous venons d'énumérer jusqu'à maintenant. Et enfin, ce n'est pas tout, l'écrivain religieux lui-même va se taire dans la carrière de Kierkegaard, et le dernier moment de cette vie kierkegaardienne, ce sera le moment du prophète. Kierkegaard a été un prophète et il est mort d'avoir été un prophète. Ici, il faut penser à la vocation de Jonas telle qu'elle est évoquée dans la Bible. La parole de Yahvé fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur malice est montée jusqu'à moi. » Kierkegaard a reçu de Dieu, Kierkegaard a reçu de l'Éternel la mission d'aller à Copenhague et d'annoncer à la chrétienté danoise qu'elle avait mal tourné et qu'il fallait revenir aux sources de la vérité chrétienne. L'œuvre de Kierkegaard à ce moment-là devient une œuvre de combat. Kierkegaard cesse d'écrire, il prend la plume du polémiste, il publie un pamphlet, il se ridiculise, il scandalise l'opinion publique, il se met tout le monde contre lui parce que désormais l'ordre de Dieu lui a été donné et quand on a reçu cet ordre, il faut lui obéir, dût-on en mourir. Jonas a été entendu à Ninive, Kierkegaard n'a pas été entendu à Copenhague, mais il a lutté. Et cette lutte, eh bien, à mon avis, c'est justement ce qui fait de lui un réformateur. Kierkegaard a critiqué Luther, mais le vieux Luther, le Luther qui avait réussi et qui avait échoué parce qu'il avait réussi précisément. Kierkegaard a repris le combat de Luther au moment du jeune Luther. Et ce combat, il fallait le reprendre parce qu'une réforme qui réussit, c'est une réforme qui échoue. Kierkegaard est un des derniers réformateurs. Il attaque la citadelle de la chrétienté danoise comme Josué attaque les murailles de Jéricho. À la septième fois, lorsque Josué fait le tour des murailles de Jéricho, à la septième fois, les murailles tombèrent. Eh bien, les murailles de la chrétienté danoise ne sont pas tombées, mais le cri de Kierkegaard ne s'est pas perdu. Le cri de Kierkegaard a été entendu. Et c'est ici, alors que peut-être il nous faut conclure, Kierkegaard a tout manqué. Kierkegaard n'a rien réussi. Kierkegaard a manqué sa vie. Il a manqué son mariage, il a manqué sa carrière. Kierkegaard n'est pas arrivé. Mais sa vocation, justement, c'était peut-être de n'être pas arrivé. Et si nous voulons rechercher enfin et découvrir le secret de cette vie kierkegaardienne, de cette expérience kierkegaardienne, je crois que nous le trouverons, en fin de compte, dans quelques textes de l'Épître aux Hébreux que Kierkegaard, bien souvent, dut méditer dans sa solitude. On y trouve d'abord ceci, et cela résume l'expérience entière de Kierkegaard, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et un peu plus loin, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux évoque les patriarches, Noé, Abraham et tous les autres, et il en dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tel est le secret de cette ultime réussite à laquelle parvint, espérant contre toute espérance, Søren Kierkegaard.
Thank you.
C'était « Connaissance de l'homme », Søren Kierkegaard, le romancier, le poète et le réformateur, par Georges Gusdorf. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 22 mai 1963.